7h42, retour sur France Culture avec notre grosse tête du jour, Jacques Lévy. Bonjour, vous êtes géographe, professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, directeur du laboratoire Coros. On va parler avec vous des villes, des provinces et des états-nations avec des modifications qui sont en cours dans différentes cartes du monde, peut-être en Catalogne, peut-être au Kurdistan. Mais auparavant, j'aimerais évoquer un sujet franco-français avec vous, celui du Grand Paris avec beaucoup d'annonces faites et attendues.
La RATP et la Société du Grand Paris préparent activement le futur du Grand Paris Express. Les travaux ont déjà commencé et la gare du Grand Paris Express sera située sous les quais du RER.
Nous sommes actuellement en attente d'un grand discours qui serait programmatique. Je mets ça au conditionnel d'Emmanuel Macron au sujet du Grand Paris. Qu'en attendez-vous ? Et expliquez-nous, Jacques Lévy, pourquoi cette question du Grand Paris est aussi importante aujourd'hui ?
Bonjour. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de François Mauriac « J'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux ». Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont contents que Paris, qui est donc une aire urbaine de 12 millions d'habitants, qui produit 31% du PIB français, n'ait pas de gouvernement urbain digne de ce nom, parce que ils considèrent que ça serait trop fort. Donc il y a l'État français classiquement, il y a aussi les autres élus du pays, il y a aussi les élus locaux de l'Île-de-France, au premier rang desquels la maire de Paris, qui n'ont pas envie d'avoir une entité qui logiquement devrait être au niveau de l'Île-de-France, puisque il se trouve par chance qu'il y a une entité politico-administrative, l'Île-de-France, qui correspond à peu près au bassin de vie, marché de l'emploi, marché de la mobilité, marché du logement, des franciliens. Et donc, on a fabriqué une espèce de monstre en dissociant l'Île-de-France de la métropole du Grand Paris. Et il est question, mais je ne sais pas si ça va se faire, de réunifier ces deux espaces. Donc, c'est une des questions qui se trouve posée à Emmanuel Macron. On va voir ce qu'il répond.
Lorsque vous regardez une carte de France, on a évoqué récemment les modifications que pourrait apporter à Bordeaux la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux. On a aujourd'hui un certain recul sur la manière dont le TGV a participé à l'aménagement du territoire. Pour Bordeaux, il peut vraiment y avoir un risque d'invasion de Parisiens, ce qui serait évidemment un risque avec des catastrophes que l'on connaît, Jacques Lévy.
Oui, je pense en effet le changement des métriques, le fait que c'est 2 heures et pas 3 heures, ça change quelque chose, c'est sûr. Maintenant, on a une expérience avec Lille, avec Lyon, c'est quelques milliers de personnes qui vont devenir des navetteurs, parce que le fait d'aller emménager vraiment à Bordeaux, s'installer à Bordeaux, là l'effet TGV est plus faible puisqu'ils vont pas toujours revenir à Paris. Donc c'est vrai que ça s'inscrit dans le cadre d'une attractivité retrouvée de Bordeaux, c'est-à-dire que avant les grands changements conduits par Alain Juppé, c'est vrai qu'il y avait
c'était un peu un trou noir.
Voilà, belle endormie, mais c'est même un peu gentil de dire ça. Hein. Et c'était pire que ça. Et donc, comme Nantes, comme d'autres grandes villes qui sont à peu près au niveau du million d'habitants pour l'aire urbaine, il y a eu une reprise en main. Il y a des projets. Donc il y a une qualité urbaine par récupération du patrimoine, d'un patrimoine existant qui est remarquable à Bordeaux. Donc qui fait que de toute façon Bordeaux est plus attractif. Donc faut pas surestimer l'effet TGV, mais c'est vrai que Bordeaux, je crois, c'est une des villes où les gens ont le plus envie d'aller. Donc parmi eux, il y a aussi des Parisiens.
Je n'aimerais pas effectivement entraîner un afflux supplémentaire de population, mais c'est vrai que c'est une très belle ville. Au-delà de ça, est-ce que vous avez l'impression que la carte de France a beaucoup changé, Jacques Lévy, ces dernières années? A-t-on affaire à un territoire en métamorphose?
Oui, si on tire ce fil, c'est vrai que l'émergence des grandes villes, le fait que nous avons sorti récemment un atlas politique de la France, on voit pas seulement les résultats électoraux, mais aussi les enjeux du politique. Et un de ces enjeux, c'est le fait qu'il y a un archipel urbain en France, c'est-à-dire que l'ensemble des grandes villes se ressemblent par bien des aspects, c'est une sociologie comparable. Alors Paris est un peu à part, mais quand même, même avec Paris, il y a des ressemblances. Donc effectivement, on a cet archipel urbain qui est attractif, qui fonctionne bien, avec des grands maires ou des grands élus maintenant de métropoles, des urbaines, enfin d'entités intercommunales qui commencent à avoir les moyens d'avoir une vraie politique. Donc qui se distingue finalement du reste du territoire, où par exemple on a souvent cité les villes moyennes qui ont des gros problèmes avec leur centre-ville, ce qui veut pas dire qu'elles ont des gros problèmes en général, mais l'attractivité du centre historique est plus faible. Donc là, il y a une vraie divergence entre les villes moyennes et petites d'un côté, où on va plutôt faire ses courses à l'hypermarché dans la banlieue ou dans le périurbain, et puis ces grandes villes qui, elles, ont retrouvé une attractivité de leur centre qui est assez remarquable.
Mais alors, dans le débat politique, puisque vous avez publié un atlas électoral de la France, dans le débat politique, il est encore question de l'opposition entre Paris et les régions, Paris et la province, disent encore certaines personnes, alors que jadis Malraux disait par exemple le mot hideux de province doit disparaître. Bon, il existe encore en politique. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des dichotomies qui demeurent, Jacques Lévy ?
Moins qu'avant, je dirais, même si c'est vrai que il y a aussi une relance de la singularité parisienne par le fait que les activités créatives jouent un rôle de plus en plus important dans la productivité d'un lieu, d'une ville, d'une région. Or, pour des raisons historiques liées à la centralisation du pouvoir d'État à Paris, en gros, Paris, c'est la moitié de la France créative. Donc, ce n'est pas rien, hein, le fait d'avoir dans une aire de 12 millions d'habitants l'équivalent de ce qui serait donc la moitié de la France, c'est-à-dire plus de 30 millions d'habitants en matière de chercheurs, d'artistes, de journalistes, de spécialistes de la communication, etc. Donc c'est un vrai avantage comparatif qui fait que Paris se trouve en gros dans le top 4, top 4, faudrait dire, des villes mondiales. Donc, c'est vrai que par certains aspects, Paris confirme le fait qu'il joue dans une autre cour que même les grandes villes. Donc ça nuance un peu ce que je viens de dire. Donc ça voudrait dire quand même que l'opposition Paris-Province n'est pas complètement morte.
Elle n'est pas complètement morte, mais elle s'est quand même beaucoup atténuée. On a affaire à des distinctions qui sont de plus en plus fines dans le territoire. On parlait jadis de ville et de campagne. Maintenant, on a la notion de périurbain. C'est une notion qui compte pour vous lorsque vous devez décrire le territoire français, Jacques Lévy ?
C'est clair que ce qu'on appelle les aires urbaines, c'est-à-dire un ensemble qui comprend le centre, les banlieues et le périurbain, c'est ça l'entité de base aujourd'hui. Si on veut comprendre comment marche l'espace français, on peut pas se passer de ça. Et c'est pas facile, hein, d'ailleurs, parce que il faut savoir décrire le périurbain. Le périurbain, ça ressemble à de la campagne. Mm-hmm. Mais en fait, c'est une campagne urbanisée avec, si on suit les définitions de l'INSEE, des mouvements de travailleurs, d'actifs très importants vers les agglomérations, hein. Donc, même si on voit beaucoup de champs et beaucoup d'anciennes fermes ou même de fermes actuelles, c'est un morceau, c'est une figure de l'urbain qui est importante, qui représente 20% à peu près de la population. Donc c'est pas négligeable. Donc il faut penser tout ça ensemble. C'est d'ailleurs, si on revient à la question du Grand Paris, c'est un aspect de l'erreur, je pense, d'avoir créé une métropole du Grand Paris petite, uniquement avec la zone centrale, puisque là, les périurbains qui déjà ont des tendances spontanées un peu sécessionnistes, là on les pousse à l'extérieur, ce qui politiquement, à mon sens, n'est pas une très bonne idée.
Vous venez de prononcer un mot, tendance sécessionniste. On va quitter la France pour aller vers l'Espagne, Jacques Lévy, pour évoquer la question de la Catalogne. Qu'est-ce qu'un géographe a à dire sur cette question de l'indépendance de la Catalogne ? Donc une région de 7 millions d'habitants qui souhaitent prendre son autonomie. Est-ce que pour vous, il y a une vraie logique à cela ? Est-ce qu'au contraire, pour vous, il est impensable qu'une région prenne son envol ?
Les États actuels n'ont pas toujours été des États, et donc il y a bien un moment où ils le sont devenus. Hein, et je pense que il faut pas naturaliser les États tels qu'ils sont. Et quand on regarde les relations entre la Catalogne et la Castille, disons, on voit que c'est une très longue histoire qui commence sur une base égalitaire ou se voulant égalitaire au XVe siècle, hein, avec, on dit los reyes, c'est-à-dire les rois, parce que justement Ferdinand d'Aragon, Isabelle la Catholique, ils étaient censés avoir un pouvoir égal. Et puis ça se passe mal pour l'Aragon qui devient la Catalogne, enfin qui se recentre sur la Catalogne, et du coup les Catalans ont vécu une série d'histoires. On peut relire toute l'histoire de l'Espagne comme une histoire d'occasions manquées, de défaites. Donc il y a quelque chose qui est aussi le passé qui passe pas. Hein. Et c'est un élément un peu en arrière-plan, très sensible, très affectif, comme ça peut exister en Corse ou dans le Pays Basque, en France. Et donc ça, c'est un élément du problème. Globalement, je dirais que ce qu'on vit actuellement, plus conjoncturellement, c'est plutôt l'histoire de l'échec provisoire, hein, peut-être, de l'invention d'un fédéralisme original, c'est-à-dire un fédéralisme différencié. C'est-à-dire que c'est l'idée assez forte de 1978, la Constitution, avec le premier statut qui dit on ne propose pas café para todos, pas la même chose pour tout le monde, mais qu'est-ce que vous voulez, on vous le donne, si c'est compatible, disons, avec l'esprit général de l'État espagnol. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu une remise à jour du statut en 2006. Et là, parce que la droite espagnole avait décidé d'en faire une question de légitimité, de rassembler le fond nationaliste, il y a eu un échec d'un accord qui pourtant avait été signé. Hein. Et donc là, ça a activé finalement les secteurs les plus nationalistes des Catalans. Vous ajoutez à ça la crise économique, le fait que quand il y a une crise très grave, et elle a été très grave en Espagne, vous avez tendance logiquement à accuser celui qui est aux manettes d'être responsable. Et c'était pas complètement absurde de le faire à propos de l'État espagnol, du gouvernement. Du coup, vous avez une situation assez imprévue par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer quelques années avant.
Mais alors, vous dites, Jacques Lévy, que les nations ne sont pas éternelles, les civilisations non plus d'ailleurs ne sont pas éternelles, mais quand vous prenez l'Espagne, quand vous évoquez cette question catalane, avez-vous l'impression que l'Espagne est un pays beaucoup moins unitaire qu'on aurait pu le penser? Est-ce que ça a un sens en géographie de dire, voilà, c'est un État cohérent, qui possède une cohésion, tandis que d'autres n'en auraient pas? Et à cet égard, est-ce que l'Espagne est plutôt un pays factice, vous diriez ça?
Non, pas forcément. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, les grandes entreprises catalanes ont très peur de perdre le marché espagnol. Donc, simplement, je crois qu'il faut bien identifier l'époque des États-nations, c'est-à-dire une époque où il y a à la fois la guerre de masse, ça commence en 1792 avec la levée en masse, c'est-à-dire l'idée qu'on peut envoyer toute la population au combat, et ça rapporte, je veux dire, c'est assez rentable militairement, mais tout de suite une contrepartie apparaît, la démocratie, et une autre contrepartie apparaît à la fin du 19e siècle, l'État-providence. Hein. Bismarck, c'est à la fois l'unificateur de l'Empire allemand et l'inventeur d'un État social qui va faire florès dans toute l'Europe. Donc, on a pendant un certain temps une espèce de verrouillage. Si vous ajoutez encore le marché national, hein, les théories de Friedrich List d'une correspondance entre le territoire de l'État et le marché des entreprises nationales, là vous avez quelque chose qui pendant quelques décennies va fonctionner, et les partisans du Brexit se référaient toujours avec nostalgie à cette époque où l'État nous donnait un emploi, où tout se passait à l'échelle unique.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est sûr que ce n'est plus fonctionnel. C'est-à-dire que il y a plein d'échelles qui fonctionnent, il y a plein d'échelons qui fonctionnent, et c'est le cas aussi de la Catalogne. C'est quand même intéressant de voir que les gens qui sont les plus européanisés et mondialisés, notamment Barcelone, sont les moins favorables à l'indépendance. Hein. Donc eux, ils considèrent qu'il ne faut pas se polariser sur la revendication de fabriquer finalement un État du 19e siècle au 21e siècle. C'est pour ça que les référendums, ce qu'on a vu en Écosse, ce qu'on avait vu au Québec quelques temps avant, finalement, maintenant on peut se séparer, mais peut-être que ça vaut plus le coup. Il vaut mieux penser des relations plus subtiles entre les différents niveaux d'échelle pertinents.
Mais parce qu'il y a des États fédéraux qui fonctionnent très bien, d'autres qui semblent fonctionner plus mal, puisque l'Espagne, même si l'Espagne demeure unitaire, c'est une possibilité, on sent bien qu'il y a des tiraillements. Pourquoi certains États fédéraux fonctionnent-ils mieux que d'autres? L'Allemagne réunifiée semble ne pas avoir de volonté autonomiste. Pourquoi ce qui fonctionne dans le cas allemand ne fonctionne-t-il pas dans le cas espagnol, Jacques Lévy?
Bon, faudrait effectivement comparer sérieusement. L'histoire de l'Allemagne est relativement pleine de...
Elle est pleine
d'événements, d'événements complexes, y compris du point de vue du fédéralisme, certes, puisque le nazisme avait supprimé le fédéralisme, qui était très ancien.
On a pu, par exemple, apprendre à l'école que l'Allemagne était un État récent, on a vu ses métamorphoses, on sait que les frontières allemandes n'étaient pas du tout fixes, et d'ailleurs elles sont étonnamment changeantes dans une période assez récente. Ça n'est pas le cas des frontières espagnoles. Pourquoi finalement c'est plus l'Espagne que l'Allemagne qui semble aujourd'hui fragile?
Oui, alors effectivement, alors si on regarde les choses avec une certaine acceptation des diversités institutionnelles, on pourrait dire que la tendance spontanée des démocraties, des républiques démocratiques, républiques au sens de Kant, de l'état de droit, des contre-pouvoirs, etc., pas forcément de la forme républicaine, mais ces républiques démocratiques, logiquement, elles deviennent fédérales d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que même dans les petits pays du Nord où il n'y a pas de niveau régional, il y a une espèce de fédéralisme de fait entre l'État et le niveau local. Et puis, il y a l'Allemagne, il y a l'Autriche, il y a la Suisse. Il y a en fait le Royaume-Uni qui, à sa manière, est en train aussi de devenir fédéral avec des entités locales qui sont très fortes. Il n'y a pas le niveau régional, sauf dans les anciennes nations, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles. Donc ce fédéralisme différencié qui a été mis en place en Espagne, avec des difficultés, c'est aussi une tendance qu'on trouve en France, avec les Outre-mer, la Corse, l'Île-de-France. Il y a de plus en plus de lieux qui ont un statut différent des autres, et ça semble bien fonctionner. Donc je dirais que globalement, le fédéralisme fonctionne bien, sauf quand il est en fait... mal géré, c'est-à-dire quand certains des acteurs ont l'impression que on ne va pas jusqu'au bout, que en fait ils voudraient l'indépendance, et ça c'est le cas de la Belgique, où il y a quand même des acteurs importants qui considèrent que le fédéralisme c'est pas suffisant. Mais globalement, je dirais que le fédéralisme progresse en Europe.
Jacques Lévy, on vous retrouve aux environs de 8h20. On va continuer à parler de cartes à la radio. Vous serez rejoint par Delphine Papin, qui est également géographe et qui est responsable du service cartographie au journal Le Monde. On va évoquer un phénomène qui est particulièrement prégnant lorsqu'on le constate. Après l'éclatement des empires, on a l'impression que nous sommes en train de vivre un éclatement des États-nations. On le voit bien avec la Catalogne dont nous avons parlé. On voit qu'il y a d'autres tentations autonomistes. En Écosse, on le voit en Italie. Et puis, 10% des États qui existent aujourd'hui à la surface de la planète ont été créés depuis 1990. On va continuer à évoquer cela dans une vingtaine de minutes parce qu'il est 8h sur France Culture.